Penser. L'horloge prend du retard, mais on y est. Voilà, bienvenue. Merci de m'accueillir pour vous parler de l'Église persécutée, mais pas seulement. J'aurai une brève introduction, un premier volet qui touche bien sûr à ce dimanche particulier de l'Église persécutée, deux fois dans le mois de novembre. Alors là aussi, on a une semaine de retard, ce n'est pas le dimanche officiel, mais enfin, c'est encore OK d'en parler, bien sûr. Ce dimanche de l'Église persécutée sera consacré à un pays pour lequel nous prions, là où nous agissons aussi avec bien d'autres. Il s'agit de l'Afghanistan, qui est le top one de l'index mondial de persécution cette année, un pays qui a été reconquis par une mouvance islamiste extrêmement rigoureuse, je pourrais dire féroce, en termes d'une politique chariatique. Qui est assumé, donc un islam hégémoniste, nationaliste, qui a mis bien sûr l'Église sous pression et les quelques chrétiens, les quelques milliers de chrétiens qui étaient encore cachés dans le pays, ont connu soit la fuite, la persécution, la mort. En tous les cas, il en reste une poignée. C'est un pays pour lequel nous prions et nous agissons comme tant d'autres sur la planète, parce que depuis plus de 60 ans, bientôt 70, et dans bientôt 70 pays, 71 en fait, aujourd'hui en 2022, Portes Ouvertes se plaît encore et toujours à amener Bible et formation biblique, littérature chrétienne pour exhorter l'Église à tenir le choc et à faire face à l'adversité de l'aide humanitaire, bien sûr, lorsque c'est la première demande ou la première des nécessités, il faut commencer par là, c'est évident. Et de la formation, vous verrez, j'ai énuméré quelques-uns des projets portés par Portes Ouvertes ici et ailleurs, notamment en Afghanistan, tout à l'heure. L'Afghanistan, donc Taliban oblige, c'est un pays qui a connu des drames. J'aimerais pas les énumérer ici pour vous faire déprimer un peu plus. On parle d'Ukraine, on parle de toutes sortes de misères sur la terre. Et les médias, c'est vrai, sont très anxiogènes. Il faudrait mieux lever les yeux au ciel et prier comme on l'a fait ce matin devant la sainteté de Dieu. Mais ma foi, les yeux ouverts devant la réalité, nous allons porter nos frères et sœurs dans la prière, parce que c'est le but de la matinée, tout à l'heure du partage du pain et du vin, nous prierons pour les chrétiens affligés peut-être par la guerre, mais surtout pour nos frères et sœurs en Afghanistan, qui souffrent à cause d'un islam conquérant. J'aimerais vous présenter une vidéo qui, mieux que moi, saura vous dérouler un petit portrait et des témoignages des chrétiens d'origine musulmane, non seulement en Afghanistan, mais partout là où Portes Ouvertes travaille. Ça vous rendra compte ainsi de leur réalité de vie. C'est une petite vidéo d'à peine 5 minutes. Merci de votre attention. Je reprendrai la parole ensuite.
J'irai voir les autorités pour faire enlever ton nom de ma famille, parce que tu es chrétien. Il a dit, je ne peux te rencontrer que pour te tuer. Je t'aurai, où que tu sois. Je te le promets, je t'aurai et je te tuerai.
Un parmi des millions, isolé et seul. C'est ainsi que se sentent beaucoup de chrétiens partout dans le monde. Ces ex-musulmans ayant grandi dans un environnement à majorité musulmane, par exemple au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne ou en Asie centrale. Partout dans le monde islamique, des milliers de personnes tournent le dos à l'islam et deviennent chrétiens. Un réveil incomparable dans un monde où le fait de se détourner de l'islam est un crime qui mérite même la mort. Le risque en vaut la peine pour eux. Bien des musulmans ne sont plus satisfaits de leur religion. Ils commencent à chercher des réponses, surtout dans la foi chrétienne. Ils cherchent en ligne, avec des amis chrétiens ou dans la Bible. D'autres rencontrent Jésus directement dans des rêves ou des visions.
J'ai rêvé du Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu une lumière et j'ai entendu une voix qui me disait « Tu es sur le bon chemin ». Le chemin que tu avais emprunté n'était pas le bon, mais maintenant, tu es sur le bon chemin. Cette rencontre avec Jésus a tout changé, toute ma manière de penser.
La plupart d'entre eux doivent se retenir pour ne pas partager leur nouvelle foi en Jésus avec leur famille. la sécurité, le soutien et l'identité. C'est ce que perd un musulman en décidant de devenir chrétien. Car cette décision amène la honte sur la famille élargie et est impardonnable. C'est ainsi que des membres de familles proches deviennent des persécuteurs.
J'ai dit à mon père, en face, que j'étais chrétien. Il m'a répondu, « Alors prends tes affaires, je ne veux plus te voir dans ma maison. Ne reviens jamais ici, tu n'es plus mon fils, je ne te connais pas. » J'ai reçu des menaces de mon oncle. Il m'annonçait que quiconque me trouverait pourrait me tuer. Je lui ai dit, « Parlons-en. » Il a dit, « Je ne peux te rencontrer que pour te tuer. Je t'aurai, où que tu sois. Je te promets, je t'aurai et je te tuerai. »
Il m'a dit des choses qui m'ont profondément blessé. Il m'a dit, « Une prostituée qui croit en Mahomet, je l'honore et je l'appelle sœur. Mais toi, bonne fille, vierge, belle personnalité, tout cela ne compte pas pour moi, parce que tu es chrétienne. Elle, je peux l'appeler sœur, mais toi, non. »
Beaucoup de chrétiens d'origine musulmane vivent dans la peur d'être découverts. En général, ils ne peuvent fréquenter des églises officiellement reconnues parce que celles-ci n'ont pas le droit d'accueillir des chrétiens d'origine musulmane. Si des rencontres avec d'autres chrétiens sont possibles, ce n'est qu'en secret, dans des églises clandestines.
Moi, je suis sûre que même si je vivre seule, Dieu n'allait pas me laisser. Dans la Bible aussi, ils nous disent qu'on doit être une communauté avec tous les chrétiens. Même s'il n'y avait pas de chrétiennes ici, ou des chrétiens, peut-être j'allais chercher des autres chrétiens.
Mais ces rencontres clandestines risquent d'être découvertes par les services secrets de leur pays.
On a sonné à la porte et quelqu'un est allé ouvrir. C'était la police secrète qui a fait irruption chez nous. Ils ont commencé par nous séparer violemment. Ils ont crié, nous ont insultés. Assis, tout le monde, assis, personne ne parle. Ils ont commencé à fouiller toute la maison. Ils ont pris tout ce qui avait un rapport avec le christianisme. Des livres, tout ce qui était en lien avec Jésus, la croix, tout.
Malgré le danger, la foi chrétienne se répand rapidement dans le monde islamique. Uniquement parce que les chrétiens ont le courage de confesser le message de Jésus malgré tous les risques. Priez pour les chrétiens d'origine musulmane. Priez pour que Jésus rencontre encore beaucoup d'autres musulmans. Priez aussi pour les chrétiens, qu'ils trouvent d'autres chrétiens pour vivre la foi ensemble. Priez pour ceux qui sont isolés, qu'ils persévèrent dans leur foi et ne retournent pas à l'islam par peur.
Voilà, nous prierons pour nos frères et sœurs chrétiens dans les pays musulmans, en Afghanistan en particulier, mais ailleurs. Vous aurez tout à l'heure, d'ici 3 minutes, un autre témoignage qui vous appellera aussi, non seulement à la compassion, mais à la prière, assurément. Un pays verrouillé par l'islam, un islam, je l'ai dit, omniprésent et extrêmement rigoureux, plus même qu'en Arabie Saoudite. C'est à peu près l'équivalence là, entre ces deux pays. C'est un islam qui ressemble, mais qui est beaucoup plus fermé encore, notamment en ce qui concerne les églises. On sait bien qu'en Arabie Saoudite, on parle beaucoup du Qatar. Le Qatar, il y a 300 000 chrétiens dans ce pays, mais ce sont des chrétiens immigrés qui ont droit à se rassembler comme nous ce matin. Mais les chrétiens d'origine musulmane, celles et ceux qui sont nés à la fois dans un contexte, une famille musulmane, eux sont sévèrement réprimés et interdits même de fréquenter une église. C'est le cas, bien sûr, en Afghanistan. La seule église étrangère qui était encore en présence dans le pays, en mars 2020, a fermé ses portes. C'était la chapelle de l'ambassade d'Italie. À cause du Covid, bien sûr, elle n'a pas réouvert. Et les églises, même souterraines, ont été complètement dissolues. Les chrétiens ne peuvent se rassembler, à moins bien sûr de le faire à leur risque et péril, comme ils en ont l'habitude. Mais même les églises de maison ont été abandonné. Les chrétiens ont largement fui l'Afghanistan. J'aimerais vous présenter un témoignage d'une femme, parce que les femmes, elles souffrent d'une double persécution. Elles sont femmes dans un pays où l'islam règne, ce qui est déjà une désolation pour elles, puisque la femme est malmenée, évidemment, dans ces pays extrêmement machistes, sexistes. Plus que cela, la femme souffre d'une forme de persécution à cause de son genre, et d'être chrétienne par-dessus le marché, ça en ajoute encore, bien sûr. Et vous allez écouter ici le témoignage de Zabi, et nous prierons aussi pour elle en fin de culte. On va remettre la vidéo au départ, parce qu'il y a un tout petit peu... Il y a un problème de son, alors je reviens au début de la vidéo si possible. Merci à la technique d'assurer la qualité.
Ceci est un message de la part d'une chrétienne d'Afghanistan. J'ai grandi en Afghanistan. Ma famille et moi sommes des chrétiens clandestins. Il y a quelques années, les talibans sont venus. Ils ont pris mon père à cause de sa foi chrétienne. Ils l'ont torturé et tué. Quelques mois plus tard, mon frère a aussi disparu. Nous n'avons plus jamais eu de ses nouvelles. Lorsque les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan en août 2021, ma mère et moi avons réussi à fuir dans un autre pays. Notre situation est désespérée. Nous n'avons pas de nourriture et pas d'habits de rechange. J'ai de l'argent sur mon compte bancaire, mais je ne peux y accéder depuis ici. Mon visa expire bientôt. Qu'est-ce qui m'arrivera alors? Je prie de pouvoir quitter ce pays et aller dans un lieu sûr. Je devrais peut-être vivre dans la clandestinité, ou alors je serai déportée en Afghanistan où je risque d'être tuée. Je me sens seule et sans espoir. Je suis déprimée. Honnêtement, comment allons-nous vivre, ma mère et moi? Je remercie Dieu pour la nourriture et les habits que vous nous avez apportés. Votre soutien financier et vos prières sont un encouragement pour nous. Vous êtes une lueur d'espoir pour moi. Il y a une chance que je survive.
Oui, il y en a des milliers d'autres comme Zabi qui souffrent à cause de leur foi. Portes ouvertes, se plaît à leur venir en aide d'année en année. C'est plus de 6 millions de personnes que Portes ouvertes aident concrètement chaque année dans le monde. Ça fait un petit bout de chemin et ça fait un certain nombre de personnes. Bien sûr, ce n'est pas nécessairement de l'aide d'urgence quand c'est nécessaire. Bien sûr que c'est la première des choses à faire, mais c'est aussi leur donner une espérance. Et l'alphabétisation des femmes en particulier compte, puisque les femmes sont absentes de l'école. On ne scolarise pas les femmes en Afghanistan, par exemple. Alors les rendre capables de lire pour pouvoir aussi s'approprier la Bible, c'est une chose, mais ça leur permet aussi d'entreprendre un projet de formation professionnelle. Par la suite, ministère donc en faveur des femmes qui est exceptionnel dans ces pays, limitrophes aussi à l'Afghanistan. On se focalise ce matin sur l'Afghanistan, mais l'Asie centrale est un foyer d'activité pour Portes ouvertes très important, une immense partie de notre budget, avec la Corée du Nord notamment. Formation de disciples, formation des pasteurs qui ont besoin aussi d'être encouragés non seulement dans leur foi, mais même éduqués théologiquement parlant, parce que bien un grand nombre de pasteurs manquent de formation et d'apport théologique, aide psychologique post-traumatique. C'est ce que nous menons à bien dans divers pays. Je vois Christine qui revient du Nigeria. Elle est allée à la rencontre d'une centaine de veuves. C'est un ministère de Portes ouvertes aussi, et l'aide psychologique, aide post-traumatique pour ces femmes, entre autres, qui ont perdu leur mari dans des conditions souvent absolument abominables, ont besoin d'être accompagnées. Et c'est ce que Christine a fait cette semaine passée. Bravo, merci Christine. On serait heureux de t'entendre aussi. Soutien par la prière, c'est ce que nous sommes appelés à faire ce matin, entre autres, parce que nous pouvons rester au contact de ces chrétiens persécutés par le biais du magazine de Portes ouvertes. Alors, vous voyez une vieille horloge qui s'efface gentiment devant vous, mais ce n'est pas tout à fait vrai, je suis encore vaillant et debout, mais Chaque mois, l'horloge, on lui tend les ressorts avec un bon magazine plein de témoignages qui non seulement parlent de la réalité difficile de l'Église dans les nations, mais suscitent aussi votre élan de foi et de prière. C'est un magazine profondément encourageant parce qu'on y rencontre des gens et on réalise le bien que nous pouvons leur faire, leur procurer non seulement par la prière, mais par toutes sortes de moyens. Bien sûr que la prière reste le premier des moyens que nous pouvons faire sans grands efforts, quoique parfois la prière est devenue rare ou elle s'étiole dans la vie de l'Église, spécialement pour les gens qui souffrent. Mais enfin, reprenons courage. Chrétien audacieux, un nouveau podcast que vous pourrez trouver sur Spotify avec des thèmes d'actualité. C'est les leçons de l'Église persécutée pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas ce que Portes Ouvertes fait ou ce que les chrétiens expérimentent sur le terrain, c'est plutôt leur leçon de vie. Que pouvons-nous apprendre d'eux qui fortifient notre foi et notre expérience ici aujourd'hui? Prier avec le calendrier, bien sûr, donner, devenir actif parce que vous voulez partir, voyager, découvrir aussi cette réalité, être comme Christine à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont besoin de soutien et d'une présence, d'un accompagnement. C'est toujours, évidemment, possible. Je tourne la page, volet misère du monde, persécution, on fait un break, vous êtes d'accord? On priera pour nos frères et sœurs. C'est un peu la fin de mon année, l'année passée ça m'a fait le coup, en plus on était à distance, on n'avait que l'écran, j'ai dû parler d'un sujet, là en vous regardant dans les yeux par la petite lunette ici. Et fin novembre c'est un peu ma fin d'année à moi, parce qu'après à Noël on ne vient pas parler de persécution dans les églises. Comprenez qu'on sont un petit peu sur la retenue, les églises ont autre chose à entendre. Mais enfin voilà, donc vous avez les restes ce matin, mes 5 pains et mes 2 poissons. Mais j'espère que la parole de Dieu soit pour vous une lumière, et pour nous tous qui l'entendons ce matin. Une parole de la Bible, les ennemis du chrétien. Alors quand on parle Afghanistan, quand on parle chrétiens persécutés, on identifie assez bien leurs ennemis, n'est-ce pas? Et encore qu'on parle de système, on parle d'idéologie, on parle d'un islam particulier ici, un islam politique, un islam hégémoniste, nationaliste, je l'ai dit. Les hommes et les femmes ne sont pas nos ennemis, nous sommes appelés à les aimer. Alors, ils se présentent souvent sous les traits de l'ennemi, mais enfin, cela reste des humains. Et nous avons à les aimer, même à leur pardonner leurs coups les plus durs. Et ça, c'est en théorie, dans la réalité, c'est une autre affaire. Mais enfin, les ennemis du chrétien ici, quels sont-ils? On a parfois de la peine à les identifier. On se dit la persécution, c'est là-bas, et c'est vrai. C'est les plus persécutés. Nous ne sommes pas persécutés, bien que des petites choses puissent survenir, ça et là, dans nos sociétés. Nous sommes dans des sociétés libres, nous avons encore liberté d'expression, de religion, de conscience, bien que dans certains aspects de nos sociétés, une pensée unique, bien pensante, une idéologie nouvelle, d'une forme de radicalité nouvelle sous le plan du genre, de l'identité, du sexe, tout ça est en train de mettre en place une éthique, une nouvelle norme éthique en société qui va à l'encontre de nos convictions de chrétiens minoritaires aujourd'hui dans ces pays qui sont les nôtres. Donc nous avons à craindre quelques représailles, ça et là. Pensez à la décision du Conseil synodal qui date d'il y a quelques semaines ici, dans ce beau pays de Vaud, qui réclame le mariage pour tous, bien sûr, et l'obligation pour les pasteurs réformés de souscrire à cette nouvelle norme et de célébrer tous les mariages. Il y a une clause de conscience, mais un pasteur pourrait être déféré devant un tribunal, que ce ne serait pas tout à fait surprenant s'il osait refuser un tel acte, une telle célébration. Voilà, c'est le pays de Vaud. La Suisse, bien helvétique, neutre et libre. À certains égards, nous avons peut-être de nouvelles formes de discrimination, et c'est nous qui serons accusés d'être discriminants à cause de notre théologie évangélique sur les questions de sexualité, de mariage ou d'autres enjeux moraux. Voilà, à voir, on ne va pas peindre le diable sur la muraille. Mais en ce qui nous concerne ici, aujourd'hui, en 2022, je reprends la vieille horloge du matin, reprend une vieille horloge qui a déjà sonné le glas à ce sujet il y a des années. Vous avez vu Billy Graham, alors je me cache derrière un homme illustre ce matin, comme ça je n'ai pas besoin de tonner de la chair et de défendre mes propos. Ce n'est pas moi, c'est Billy Graham. C'est pas mal hein, pour une vieille horloge, je peux dire n'importe quoi ce matin de manière très détendue. Vous irez trouver Billy hein, et vous lui direz, Marc a dit, alors il faudra attendre quelques années, j'espère pour vous, pas le rencontrer trop tôt parce qu'il n'est plus de ce monde, mais enfin, il a écrit à propos de nos ennemis et à partir de certains textes bibliques que j'aimerais vous lire. C'est un vieux livre qui est épuisé, alors je me suis dit, tiens, un vieux livre épuisé, c'est bien, personne ne l'a lu, je peux en reprendre un bon chapitre, un bon morceau, puis le balancer comme ça un dimanche matin. Vous êtes ces gens-là à qui je balance une bonne page de texte, j'espère. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël. Promesse de la nouvelle alliance. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre. C'est pas bon pour les pasteurs, ça. En répétant chacun à son compagnon ou à son frère, « Il faut que tu connaisses l'Éternel !» Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. 1 Corinthiens 6, 19-20, un texte du Nouveau Testament qui fait écho à cette nouvelle donne, la loi gravée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Ce n'est plus l'affaire des prêtres. On a besoin des pasteurs, des ministres de la parole. Se planter une balle dans le pied. Vous avez besoin d'un Lucas Haussmann, vous avez besoin d'anciens, vous avez besoin d'enseignants, de formateurs, de prophètes, et que sais-je. On a besoin les uns des autres. On a besoin, nous, le corps, d'être mobilisés, équipés par des appels particuliers en notre sein. Mais enfin, chacun dépend du Saint-Esprit, number one. C'est pas Cyril à la louange, je le dis ce matin que vous venez rencontrer, même Cyril, un magnifique pianiste, un bel adorateur devant Dieu. Vous venez pas écouter Luc, même si vous venez écouter Luc, j'entends bien, mais vous venez recevoir la parole de Dieu. Nous avons besoin de cette parole parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné communément et ensemble nous sommes à sa disposition pour écouter ce qu'il a à nous dire. Vous ne vous appartenez donc plus à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Honorez Dieu donc dans votre corps. Il ne suffit plus de prendre un peu d'argent et d'aller acheter, que sais-je, l'offrande ou le sacrifice, de le présenter au temple et dire « Va bien, belle affaire, je suis exonéré de devoir rendre des comptes à Dieu. J'ai fait ma part. » Il ne s'agit plus, il n'y a plus de système sacrificiel. J'ai visité Jérusalem il n'y a pas longtemps, il n'y a plus de temple, c'est fini. Le temple, c'est vous, et vous êtes un lieu saint que notre corps, à chacun, reste ce lieu saint pour le Seigneur. Une bataille intérieure, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais que nous le verrons tout à l'heure, c'est forcément un peu notre faute quand même. La mauvaise affaire, c'est que ce n'est pas les autres. Souvent, c'est moi. Souvent, c'est mon propre péché. Mais enfin, même derrière le péché, il y a plus grand. Il y a des dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà contre qui la bataille fait rage. Éphésiens 6, 12 et un dernier texte. Celui qui fait ce qui est péché du diable. Mince alors. Parce que le diable a péché dès le début. La raison pour laquelle le Fils de Dieu est apparu était de détruire l'œuvre du diable. Alors à qui appartenons-nous ? À qui appartenons-nous ? Bien sûr, on appartient à Dieu. Bien sûr, on se réclame du Dieu Tout-Puissant. Mais ne nous trompons pas, Dieu connaît ses enfants et nous en sommes. Nous avons pour autant à persévérer jusqu'à la fin. La bataille, elle est rangée du côté de Dieu, elle est pliée. C'est bon, c'est fait, il a tout accompli. Mais toi et moi, on a encore à persévérer jusqu'au bout. On le sait bien, les chrétiens persécutés, ils doivent persévérer dans la foi. Ils ne doivent pas renier leur Seigneur. Ce serait plutôt facile parfois de signer la bonne déclaration et d'être libéré de prison. Quelle est notre persévérance à nous ? Quel est notre défi à nous ? C'est quoi ce sujet sur lequel il ne faut pas déroger ? C'est quoi cette bataille intérieure qu'il nous faut gagner à tous les coups ? Pourquoi en serions-nous exonérés parce qu'on est occidentaux, bien lotis, riches et chauffés ? Pourquoi ? N'y a-t-il pas un enseignement pour nous aujourd'hui ? Les persécutés le sont vraiment. Et nous, quelle est notre bataille ? Alors le diable, on l'a dit, le monde, les circonstances de la vie et la chair. Les sources de la bataille, le conflit dans la vie chrétienne. On va en reparler. Bien sûr que quand on est attaqué, on ne sait pas toujours d'où vient l'attaque. On ne sait pas quel est le serpent qui nous mord. Par exemple, une fatigue excessive, elle peut être liée à tellement de choses. Trop de Qatar, trop de Coupe du Monde, ça c'est mauvais. Ça. Si tu es fatigué à cause de ton temps sur Internet ou à la télé, c'est vraiment, voilà, c'est bête. Hein. C'est toi, c'est trop bête. Circonstances de la vie, Qatar c'est quand même exceptionnel. Moi j'en regarde très peu, hein. Je regarderai la Suisse demain contre le Brésil, ça vaut le coup j'imagine, mais c'est pas, ça peut être une source de fatigue, mais qu'est-ce qui te fatigue ? Moi, c'est mon surmenage. Je me donne trop de peine, je veux trop en faire. Moi, je plais à mon directeur comme ça, pour le salaire qui est le mien. Je fais des heureux. Et c'est très bien, je ne m'en couple pas dans le ministère. Je m'en réjouis, j'aime relever les défis. Mais si je ne prends pas soin de moi, la vie horloge, elle va gentiment dérailler, ou je ne sais pas. Hein. Le pasteur sait qu'il doit prendre soin de sa personne aussi. Dans les ONG, on est des pasteurs aux affaires. Alors parfois, on s'oublie un peu, peut-être trop. Il y a toutes sortes de défis dans nos vies. Ça peut être très trivial, mais ça peut être très spirituel aussi. Lesquels sont-ils ? La souffrance, j'aime rappeler que la souffrance, ce n'est pas que l'affaire des persécutés. Vous verrez pourquoi. Et vous verrez pourquoi je cite ici ce Jim Cunningham. C'est pas Billy Graham, c'est un petit ajout perso. La souffrance dans la volonté de Dieu a un sens et un but. Le but ultime de Dieu, que ce soit par la persécution ou la liberté, c'est que nous soyons conformes à l'image de son Fils. C'est ça le but de nos vies, peu importe ce qu'il faut traverser. Si nous avons pour ambition et pour objectif de lui ressembler, alors nous serons tout traversés et nous serons victorieux de toutes nos épreuves. Pourquoi la souffrance ? Ça vaut peut-être la peine de se reposer la question. Pourquoi la Russie, l'Ukraine ? Pourquoi l'Iran ? Cette population depuis 2 mois qui souffre le martyr parce qu'elle veut renverser ce régime totalitaire et Dieu leur vienne en aide. Pourquoi la Turquie lance ses attaques sur la Syrie et l'Irak aujourd'hui, sur les Kurdes encore une fois ? Pourquoi Kim Jong-un menace les États-Unis ? Aujourd'hui, il en a les pouvoirs. Ou en tout cas la capacité. Pourquoi ? Alors un tentateur à l'extérieur, ça on le connaît, c'est Genèse 3, c'est le serpent du jardin, c'est le diable. Alors là-dessus, on est d'accord, mais n'oublions pas que ces hommes, même au pouvoir de grandes nations, sont faits de bois et de feu comme toi et moi. Ils sont de manière globale les mêmes, plus ou moins. Seulement, ils ont plus de puissance, plus de capacité, et puis peut-être que leur ego, à force d'être à la tête de grands pays, devient surdimensionné. Ils prennent de mauvais choix. Mais il y a une tendance à l'intérieur. Et Paul en parle très bien à la fin de sa lettre aux Romains, chapitre 7. « Je suis prisonnier d'une loi qui régit encore mes membres, dit-il, c'est la loi du péché. Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Alors, il ne reste pas au constat, il donne la solution. Et il dit que le chrétien doit passer à Romains, chapitre 8. « Grâce soit rendue à Dieu, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, et il dit, il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui vivent en Jésus-Christ, c'est-à-dire par la loi nouvelle, celle qui inscrit dans nos cœurs des principes nouveaux, c'est la loi de l'esprit de vie. Il y a donc une solution à ces tendances et à cette souffrance inutile. Et il y a un Dieu qui nous confronte. Et moi, ça me plaît, que Dieu ne nous laisse pas gamberger dans nos approximations, dans nos batailles du quotidien, sans intervenir. Sans s'opposer à nos vues, à nos choix, parfois qui ne sont pas les bons. Il y a un Dieu qui nous fait souffrir à cause de notre péché, parce que c'est le Dieu saint que nous avons loué. Ça y est, le pasteur se réveille. Je n'avais peut-être pas envie de parler de persécution ce matin, mais quand je suis dans la prédication, ça va mieux. Et il y a un Dieu saint qui se lève et qui réclame ta vie, qui réclame la mienne. Ce Dieu saint que tu célèbres le dimanche matin, il est saint le lundi aussi. Et il nous confronte lorsque nous sommes un peu gauche, maladroit ou à l'ouest. Et du coup, ça cause un peu de souffrance, parce que quand il faut obéir, pense à tes gamins. Ils n'aiment pas. Ils rouspètent. Ils disent non, il faut les appeler 3 fois, ils n'ont pas encore entendu. Il faut menacer de prendre le natel ou de le mettre sous clé pour que les choses se passent. Il faut sanctionner. Un prof qui écrit dans le carnet journalier de ton gamin ou de l'agenda scolaire, après de nombreuses remarques, j'ai enfin puni votre gamin, tu lui dis, bien, merci. Fallait-il attendre de nombreuses réprimandes pour le sanctionner? Tu n'as d'autorité que si tu appliques la loi. Alors à nous de l'appliquer pour nos propres existences et d'obéir au Dieu Tout-Puissant lorsque nous sommes pris en faux. Il y a des choses qui incombent à l'humanité. La persécution des méchants, franchement, on ne peut que prier. Peut-être donner à portes ouvertes ou à ACP, mon ami Régis me bénira, si je parle d'ACP aussi. Et il y a d'autres missions, il y a Frontiers que sert aujourd'hui Corinne au milieu de nous. C'est magnifique. Et puis, pardon de ne pas mentionner l'AME, non, le SME, le SMI, la Banque mondiale, je ne sais plus. SAM Global. Merci, il y a tellement de belles missions ici en Suisse romande et représentées au milieu de nous. Bref, mais il nous faut prier. Il y a des choses qui n'incombent pas à nos réalités, comme sauver la planète. Moi, je veux bien me coller une main au goudron, il faut réagir, il faut que quelque chose se passe. Mais d'autres sont motivés par cette cause et c'est très beau. Mais bon, les péchés sociaux de l'humanité, est-ce vraiment notre combat ? Oui, quand nous avons une parole à rendre, un témoignage à donner, nous pouvons faire la différence. Mais pour aujourd'hui et pour moi-même, pardon d'être un tout petit peu égocentrique ou égoïste ou cultiver notre mentalité d'indépendantiste, osons jeter le miroir au fond de notre cœur et dire que nous avons nous aussi à souffrir un peu pour le Seigneur. Si nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent et il faut se faire violence. Il y a des choses contre lesquelles il faut absolument savoir dire non, résister à la tentation. Le frigo à 22h, qu'est-ce que c'est tentant, hein ? Ah, si c'était que ça, il y a des choses plus graves. Mais moi, le soir, quand je rentre, j'aime ouvrir le frigo et regarder ce qui s'y cache. Petit yogourt mocha, sympa. Il paraît que le 30% des yogourts vendus en Suisse sont des yogourts résistants. Les yogourts résistants de la Migros. C'est les yogourts fermes. Et ils sont au mocha. Et si nous ressemblions au yogourt que nous convoitons, ferme, résistant, devant la tentation. Pensez, yogourt mocha ce matin. C'est la seule parole qui va rester après ce long temps de prédication. Yogourt mocha. Les gens vont ouvrir le frigo à midi, ils vont manger des yogourts mocha. Bref, l'obéissance fidèle à Jésus. L'obéissance fidèle. Si on est retors les uns et les autres, prompt à réagir, bref, il nous faut savoir souffrir aussi, parce que la Bible en parle. Alors, je vais dérouler, parce que peut-être ça vous intéresse moins, les occurrences. Bien sûr, la Bible parle du diable, elle parle des tentations de Jésus. Bien sûr, toujours la satisfaction immédiate de tes désirs que tu prends pour tes besoins, hein. On confond besoin et désir. Et le tentateur les connaît. Et c'est ça, la tentation, c'est « Oh, tout de suite, je pourrais être gratifié d'une belle et bonne chose, instantanément. Et si je répondais oui, pourquoi pas ?» Il y a un ami de mon fils qui a vendu, ou qui a plutôt donné sur le groupe WhatsApp, un immense écran. Je crois qu'il est dans la salle. Merci, hein, c'est sympa. Je ne dirais pas qui c'est, je ne connais pas le nom, mais je sais qu'il est ici à l'escale. Groupe Louange, il a donné, merci beaucoup, un immense écran à mon fils. Enfin, c'est à sa copine, bref. Pour en acheter lui-même un plus grand encore. Ah, quand même, avant le Qatar, c'est bien d'avoir le mur. L'écran géant, quand même, besoin. Pardonne-moi frère, je ne sais pas qui tu es, je te bénis. Mais besoin ou désir? Alors Mathieu, il est rentré à la maison hier soir. Nous, on a un petit écran qu'on cache dans l'armoire. C'est tellement minuscule qu'il faut se mettre devant le canapé, s'asseoir comme ça à 1m50 de l'écran pour voir le ballon, tu vois. C'est la misère. Alors peut-être que je pourrais bien avoir le besoin d'un plus grand écran. Mais non, ça me va bien comme ça, j'en ai même pas besoin. Désir légitime ou offre d'orgueil, de convoitise, de luxure qui va participer à gratifier mon désir immédiat, mais qui trahit le Saint-Esprit en moi qui m'appelle à toute autre chose si j'écoute sa voix. Alors si j'écoute la voix de qui ? La voix du Seigneur. la voix de la parole de Dieu, la voix de Jésus, la parole incarnée. Et cette parole incarnée, elle nous est donnée en particulier dans la Bible. Tu as une question sur discerner le bien du mal ? Puis-je ou puis-je pas ? Que ferait Jésus ? Qu'en dit la Bible ? Question mark. Il faut retrouver le chemin de l'Écriture. Jésus l'a cité parce qu'il la connaissait, elle était révélée à son cœur et ça a bien passé. Il s'en est pas mal sorti, n'est-ce pas ? Mais il a cité la parole de Dieu parce qu'il la connaissait. Il dit non, c'est un mensonge. Moi, j'y résiste avec une parole qui vient d'en haut. Soumettez-vous donc à Dieu, ou déjà résistez au diable et il fuira loin de vous. Moi, je le répète, mes frères et mes sœurs, notre salut en dépend. Si tu penses être sauvé par la foi, c'est juste, mais tu feras les comptes. Tu sais, l'horloge, il faut qu'elle batte jusqu'au bout. Hein. Il faut qu'elle reste à l'heure et au diapason du Saint-Esprit, on fera les comptes plus tard et plus loin. On n'aimerait pas être mal pris, d'abord, rester assoupi et ne pas voir le Christ revenir. Ça, c'est un danger, hein, pensez aux vierges. Ça, c'est aux vierges folles. Tous finissent par dormir. Ça, c'est cool de se dire qu'on n'est pas meilleur que les autres. Finalement, on va peut-être s'assoupir aussi, se fatiguer d'une manière ou d'une autre. Mais il y en a qui étaient prêtes, dont leur lampe à huile était bien pleine. Alors, es-tu de celles et ceux, sommes-nous, une église résistante, pleine du Saint-Esprit, qui sait dire non et qui s'est veillé prier jusqu'au bout parce que nous sommes encore en chemin et sauvés en espérance. Hein ? Les Juifs avant Jésus disent on a Abraham pour père. Comment dis-tu que c'est le diable qui nous inspire ? Puis nous on dit non, on est sauvés par la grâce. Je crois qu'on se fourvoie un tout petit peu. Hein. La grâce à bon marché, oui bien sûr, elle te sauve, mais c'est ton passé, qu'en est-il de demain ? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Que réclame Dieu ? Que réclame Dieu aujourd'hui dans ta vie ? Il te donne les moyens de supporter la maladie, la faiblesse, la souffrance, pour autant qu'elle soit quelque chose que tu subisses, il te donne aussi les moyens de sortir vainqueur des pièges qui s'offrent à toi, à nous parfois, parce que notre sanctification, elle est dans le Christ, notre résistance, elle est en lui, si on accueille sa présence, on est capable de dire non, haut et fort. La tentation n'est pas péché, bien, oui, d'accord, mais elle est sournoise et il nous faut résister à celui qui la met en mouvement dans nos vies. Je ne sais pas combien de temps il me reste, je crois que je suis au bout vraiment, mais je vais y aller vite. Le monde, alors on sait, le système, les mauvaises relations, tyrannie du plaisir, on en a parlé, le paraître, le besoin de toujours plus, et tout de suite, l'immédiateté du plaisir, la tyrannie du plaisir ici. C'est un livre aussi d'un philosophe français, dont je ne sais plus le nom. Mentalité et ambition humaine, oui, ça peut nous jouer des tours, qu'on a besoin de se mettre en scène à l'excès, et la société nous pousse et nous incite à péché par excès, la gourmandise. Hein ? Orgueil, convoitise et gourmandise, trois racines de la luxure chez les orthodoxes. Intéressant de se poser la question, pourquoi ai-je envie du mocha ? Ferme au frigo à 22h. Orgueil ? Non. Gourmandise ? Ah, ding, bingo, c'est peut-être ça. Le monde, argent, plaisir, ambition, on en a dit, besoin, on en a parlé, nécessaire ou superflu ? C'est toujours de bonnes questions, n'est-ce pas ? Légitime ou excessif ? Repensons à ces deux questions que j'ai déjà mentionnées. Que ferait Jésus à ma place ? Et qu'en dit la Bible ? Si on ne tourne pas à l'Écriture, tu pourrais même perdre la voix du bon berger. Hein ? Parce qu'on croit la connaître. On croit qu'il est toujours bienveillant, amical, qui nous comprend si bien. Il dira oui, forcément. Eh bien, non. Acceptons que Dieu nous dise non. Et puis la chair, cette tendance intérieure, ce traître en nous. Vous savez ce que disait Martin Luther, disait le bougre, il sait encore nager. L'homme charnel que j'ai plongé dans l'eau du baptême. Je me suis aperçu que bougre, le bougre, je pense qu'on dirait aujourd'hui, mais enfin, il sait encore nager, il a appris à nager. Alors il faut lui faire boire la tasse de temps en temps, notre vieil homme. Parce qu'il a été crucifié, nous dit Paul. Et nous avons à nous considérer comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alors c'est quoi la recette? Parce qu'il nous faut quand même une petite conclusion qui nous permette de manière très pragmatique de passer l'obstacle. Renoncer. Suivre Jésus, ça veut dire renoncer. Faire des choix, c'est déjà renoncer. Mais suivre Jésus, ça veut dire renoncer. Renoncer jusqu'à ta vie. Sinon, tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Sinon, tu ne pourras pas pousser la charrue jusqu'en haut. Là. Pas possible. Nécessaire, absolument. Seule voie possible aux chrétiens pour obtenir une victoire totale. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu, bien sûr. Mais c'est surtout Billy. Alors, franchement, je n'ai pas tonné de la chair comme Billy Graham, mais si vous aviez eu Billy Graham ce matin, mais vous seriez tous à genoux dans le repentir. Vous viendriez devant, donnez vos vies. Vous avez vu ces campagnes? C'était quand même extraordinaire. Bon. Mais j'ai ni le ton ni la manière. J'aimerais bien être un évangéliste à l'américaine dans les années 50. C'était quand même grandiose. Oh là là. Le ministère a perdu sa superbe. Heureusement qu'il reste quelques belles illustrations possibles. Billy Graham, renoncez. Mais c'est très sérieux. Hein, faire mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez en Jésus. Nous avons la victoire. Une petite note finale, je crois. Hop. Après, je me tais parce que je suis gourmand en parole. Quand on rencontre un chrétien, il est facile de dire si oui ou non c'est un chrétien victorieux, spirituel et consacré. Oh, vous aimeriez être victorieux, spirituel et consacré? Oui, ça vous plairait. Bon. C'est quoi? T'es détendu, t'es rayonnant, capable d'illuminer et non de déprimer ton entourage? Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui se passe dans ta vie. C'est pas être plus tendu, être plus légaliste, prier une heure en langue si possible, ou faire toutes sortes de choses pour imprimer qu'on est bien chrétien à son entourage. Non, c'est rayonner, être détendu, naturel. Ça, c'est être vraiment spirituel. Puis quand on a un peu d'humour, c'est qu'il y a une finesse d'esprit qui trahit aussi quelque chose du ciel. Soyons détendus, cultivons une relation vraie avec Dieu. Soyons des chrétiens victorieux parce que nous savons dire non. Le chemin est encore long, mais il est étroit. Les autoroutes du plaisir dans nos sociétés en 2022 sont tellement larges et spacieuses qu'on n'a même pas l'impression de s'y balader. On ne sait même plus qu'on y roule à 120, 130 ou 140. On dit, mais non, c'est ma vie, c'est magnifique. Je suis le capitaine de ma vie, je roule vers mon avenir. Et puis en fait, t'es juste sur la voie qui te mène droit à l'enfer parce que t'as pas idée de ce que tu cultives dans le secret même de tes désirs et de ton cœur. Soyons honnêtes et détournons-nous du monde tel qu'il se présente à nous pour être des chrétiens vraiment consacrés, spirituels et libres, libres, libres de ces batailles intérieures qui rongent certains et qui tordent cœur et âme, et qui sont mortels et moribondes. Aujourd'hui, pas besoin d'attendre l'enfer. Hein. C'est aujourd'hui que nous pouvons faire une différence. Alors prions. Je prie, on prend la Sainte Cène et puis on reviendra au sujet d'intercession. Le culte est un peu plus long, mais c'est parce que Cyril était là ce matin. Avec le groupe, hein, pardon. Mais comme je ne sais plus le nom du groupe, je dis Cyril. Pardon. Ouais. Le groupe. C'est comment votre petit nom? Contre-courant. Amen. Ça va tellement bien avec la prédication. Seigneur, on veut marcher à contre-courant. On veut marcher à contre-courant. Et ce monde nous propose dans son lit d'idéologie, de bien-pensance, de tentations subtiles, l'autoroute qui nous mène droit là où on a décidé de ne pas aller. Apprends-nous, Seigneur, à faire demi-tour et à marcher à contresens, à être fier de marcher à contresens, la tête haute, le cœur libre, l'esprit éclairé. Seigneur, fais de nous des chrétiens victorieux, naturels et détendus, pleins de finesse et d'humour, pleins du Saint-Esprit. Au nom de Jésus.